président du CESE, Jean-Paul Delevoye, était à Gap hier.
Il préside le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de notre pays, après l'Assemblée nationale et le Sénat, mais son rôle est uniquement consultatif. Il a été élu local, député, ministre. Jean-Paul Delevoye connaît parfaitement nos institutions et notre pays. Invité par la Mutualité française des Hautes-Alpes, il a participé à une table ronde passionnante sur l'égalité dans le domaine de la santé. Il fut question d'accès aux soins, de couverture médicale, de pratique du sport, d'alimentation, de technologie aussi, et également de cas spécifiques comme la situation de l'hôpital de Briançon, démantelé selon les uns, comité de sauvegarde élus et citoyens, et confronté à la gestion économique selon les autres, l'agence régionale de santé. Dans la salle, des militants mutualistes bien sûr, mais aussi des personnalités, le sénateur Pierre-Bernard Raymond ou Mgr Di Falco, tous attachés aux valeurs de la République et inquiets du délitement de notre société devant les diktats de l'argent. Des jeunes qui ne se soignent pas, le tiers payant remis en cause, les déserts médicaux, la prévention santé, le débat n'a rien occulté et a prouvé l'attachement de tous à un système de santé qui affiche 70 ans d'existence cette année et que beaucoup nous envient. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Delevoye évoquer le système consumériste actuel et le manque de dialogue social, mais avant lui, Denis Philippe, président de la Mutualité française des Hautes-Alpes, parle du rôle de la mutualité et du citoyen. Denis Philippe.
Le citoyen doit se réapproprier la situation politique. Le politique ne peut pas répondre à tout, et on voit bien qu'il y a une déception du politique, avec une tentation grave, à mon sens, de se jeter éperdument vers des partis extrêmes qui n'auront pas de solution à apporter. Il n'est pas temps du débat citoyen. Et je pense que le rôle de la mutualité, s'il veut rester un mouvement social, il faut qu'il arrête de vivre replié sur lui-même, comme il l'a fait trop longtemps parce que c'était confortable, on avait les moyens, on était entre nous, on était autosatisfaits, la vie était bien, tranquille, protégée par notre code, et puis il s'est passé des choses extérieures qui ont fait que la mutualité, elle réagit aujourd'hui, mais elle réagit, comme vous l'avez dit, en réaction à quelque chose qui est venu la percuter, parce que les choses sont en train de bouger, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a une concurrence qui s'exerce. Donc en réaction, la mutualité vient s'interroger, et elle est interrogée par ses propres structures sur son rôle. Il faut anticiper tout ça, il faut revenir sur le terrain, expliquer ce que nous sommes. Aujourd'hui, un citoyen, pour ce qu'il s'agit de la mutualité, ne sait pas ce qu'est la mutualité. S'il ne sait pas ce qu'est la mutualité, c'est que la mutualité n'a pas fait son travail. Mais il y a beaucoup de domaines où les gens sont dans des domaines, ils sont convaincus que parce qu'ils sont dans un système, ils sont dans une organisation, ils ont forcément raison, et que le bien fondé du travail qu'il fait est compris par tous, et que forcément, il y a une légitimité à être et à rester dans les structures dans lesquelles on est hébergé, provisoirement. Et on voit des systèmes qui s'installent avec des gens qui restent indéfiniment en poste sans se poser les bonnes questions. Je pense qu'on a intérêt, si on veut apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, apprendre à réfléchir ensemble, apprendre à construire ensemble, à revenir à des aspects qui sont élémentaires à mon sens, c'est-à-dire replacer l'homme au centre de tous les dispositifs. Et quels que soient les dispositifs, ça n'a de sens que ce que ça peut apporter à l'homme. Il n'y a pas de système qui ont un intérêt s'il ne soit pas au service de l'homme. Je pense que la mutualité, son rôle, si elle veut rester un mouvement social, compris, elle doit faire de gros efforts pédagogiques, elle doit s'ouvrir sur les autres et permettre à d'autres d'exprimer des points de vue qui ne soient pas forcément les points de vue du secteur dans lequel on est. On voit bien qu'aujourd'hui, on réagit par opposition, alors qu'on peut tout à fait construire avec des points de vue différents pour éviter justement, après, des dérives qu'on peut parfois constater.
Jean-Paul Delevoye, vous avez déclaré que notre pays, notre société, était en panne d'espérance.
C'est vrai pour l'Europe, et c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup le monde. Nous avons vécu après la guerre l'équation selon laquelle la performance économique amenait la performance sociale et la performance environnementale. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, échec sur la dette, échec sur l'emploi, nous sommes dans un moment où il y a beaucoup d'argent et pas de croissance, et un peu de croissance et pas d'emploi. C'est un moment tout à fait intéressant. On a deux façons de voir les choses. C'est une façon pessimiste ou une façon peut-être aujourd'hui optimiste de se dire les paramètres sont en train de changer. Est-ce que le robot va remplacer l'homme? Est-ce que c'est la fin du salariat? Il y a des scénarios qui se mettent en place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est sur la table est politique. Et que le devoir des politiques, c'est de ne pas instrumentaliser le débat, c'est d'avoir une vision et d'avoir une vision sur dans quelle société voulons-nous vivre. Si Keynes avait raison en disant est-ce que l'homme un jour inventera des machines lui permettant de vivre et de libérer du temps parce que les robots, etc. Je crois que la bataille de demain, ce n'est pas la bataille de l'espace, c'est la bataille du temps. Et il faut que nous puissions aider les politiques à recréer des pistes d'espérance, à faire en sorte que les systèmes qui sont aujourd'hui des systèmes de prestation de services ne subissent pas une demande consumériste des citoyens, mais permettre aux citoyens de dire « mais quel est le projet de société que représente la sécurité sociale ?» Aujourd'hui, la sécurité sociale, ça devient pour beaucoup de nos concitoyens un paiement de cotisations et un tirage sur des prestations. On a totalement négligé le fait de se dire « mais c'est un formidable pacte générationnel ». C'est un formidable pacte de solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui sont malades. Et que c'est un formidable projet de société qui consiste à dire que quel que soit votre niveau de richesse et le principe de l'universalité, vous aurez accès aux meilleurs soins parce que ce qui est important, c'est l'humain dans son entité et non pas dans ses statuts, dans ses apparences, dans sa consommation. Et cela, à l'échelon du monde, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui permettre à la France de pouvoir reposer au niveau européen, quelle est l'économie de santé, puisqu'on peut bien parler de l'économie de santé si on a les meilleures prestations, etc. Sinon, si nous n'avons pas cette capacité de pouvoir retrouver cette espérance, de soutenir un pacte collectif dans lequel chacun est responsable, il risque d'avoir des chocs générationnels sur notre système de retraite. Si les jeunes n'y croient pas, ils le contesteront les efforts financiers pour les personnes âgées. Et si nous n'arrivons pas à retrouver ce sens du collectif, celles et ceux qui, par des examens génétiques, verront qu'ils sont en bonne santé, seront attirés par des assurances privées dont les taux de cotisation seront tellement faibles qu'à un moment donné, ils diront « mais pourquoi faire un effort pour un collectif qui ne me le rend pas ?» Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est tous obnubilés par la maîtrise des coûts. On est tous obnubilés par la proximité d'accès aux soins. Le vrai sujet, c'est ce qui est en jeu, c'est l'enjeu de société dans lequel on veut vivre. C'est le chacun pour soi ou le chacun pour tous. Et ça, c'est assez fascinant et c'est formidable parce que ça permet d'avoir accès aux meilleures technologies, aux meilleurs praticiens, avec des transversalités que vous évoquez, et faire en sorte que l'intelligence collective dans laquelle nous rentrons, c'est ça l'économie numérique du XXIe siècle, fait qu'au niveau de la santé, ça peut faire des progrès assez fabuleux.
Question d'actualité, est-ce que vous avez une recette particulière pour rétablir le dialogue social ?
C'est quelque chose, si vous voulez, que nous avons souvent préconisé en France. J'invite d'ailleurs les uns et les autres. Certes, on est tous marqués par ce qui s'est passé à Air France, mais à chaque fois d'essayer d'analyser les raisons de l'urgence, mais de toujours avoir une vision. La vraie question, c'est pourquoi y a-t-il eu passage à l'acte ? C'est-à-dire que cet événement paroxystique qui a dépassé les limites, c'est aussi la traduction de quelque chose qui s'est nourri depuis quelque temps. Et c'est aussi une question que n'arrive pas à se poser l'ensemble de la communauté d'intérêt économique d'Air France, qui, il y a 15 ans, estimait que les low-cost étaient voués à ne pas se développer. Aujourd'hui, Ryanair est le premier transport de passagers en Europe. Et quelle évidence, plus de 50% des commandes d'Airbus 380 le sont non pas par Air France ou des compagnies européennes, mais par des compagnies asiatiques, qui veut donc dire que si nous n'y prenons pas garde, dans moins de 15 ans, la majeure partie des transports vers l'Asie, qui est la zone de croissance de la classe moyenne mondiale, demain 2,5 millions d'individus avec un pouvoir d'achat, sera fait par des compagnies qui ne seront pas européennes. Et donc ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la rupture du dialogue social, parce qu'on est toujours dans un rapport de force, dans des oppositions, et non pas dans la capacité, alors vis-à-vis du monde patronal et du monde salarial, de se dire « nous sommes concernés par le même enjeu ». Par le même objectif, comment pouvons-nous construire ensemble une espérance ? Parce qu'on parle d'espérances collectives qui ont disparu. Mais quand vous êtes sur Air France, je pense à la souffrance de tous les salariés qui doivent aujourd'hui se dire « mais est-ce que notre compagnie a un avenir ?» Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Alors qu'en réalité, le rôle des responsables patronaux, des responsables syndicaux, c'est de pouvoir construire un pacte d'intérêts communs. Et l'on voit bien que la difficulté qu'a Air France aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue social. C'est paradoxalement la multiplicité de tous les contrats collectifs qui font qu'Air France, ce n'est pas une entreprise. C'est un lieu commun dans lequel il y a toute une série de catégories d'intérêts particuliers, où chaque catégorie professionnelle a sa convention collective. Et puis on voit bien que dans ce cas-là, eh bien, on a le procès fait aux pilotes, où on dit que les pilotes défendent plus leur statut que l'entreprise, et on est en train d'avoir cette dramatique apparition d'un conflit entre les uns et les autres, personnel du sol, du sous-sol, etc., et une direction qui a du mal à poser le débat sur quel avenir donnons-nous ou voulons-nous donner à Air France. C'est la même chose pour la problématique de santé. Si chacun réagit en fonction de son intérêt catégoriel, je suis médecin, touche pas à mes honoraires, je suis hospitalier, touche pas à mes lits, je suis patient, touche pas à mes droits, on voit bien que ça mènera à des impasses. Et donc la seule solution pour trouver cela, c'est le dialogue social. Mais le dialogue social, c'est pas une fin. Le dialogue social, c'est un chemin qui permet d'atteindre un objectif. Et on voit bien que ne soyons pas non plus dans l'illusion de croire qu'on agite le dialogue social, tout se fera. Non, mais le dialogue social a cette vertu, un, de la temporalité. Le dialogue social doit être permanent et pas en situation de crise. Deux, c'est quelque chose qui doit inclure le respect de chacun des partis. Chaque parti a le droit d'exprimer quelque chose, mais une fois qu'on a déterminé le périmètre des dissensus, comment on construit le périmètre du consensus. Et le dialogue social ne vaut qu'en respectant la différence, de créer une synergie par rapport à un objectif et une vision partagée.